Et salut, très rapidement, si tu aimes le podcast et que tu veux le soutenir, n'hésite pas à partager les épisodes autour de toi, à mettre 5 étoiles partout où c'est possible, à commenter sur ton appli de podcast et à me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Merci.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Élise. Vous la connaissez peut-être dans son podcast Prenons un café, dans lequel elle parle de parentalité souvent, et aussi et finalement avant tout d'humanité. Soyons clairs tout de suite, je connais Élise depuis que j'ai lancé mon podcast, et elle fait partie des belles rencontres faites avec les réseaux sociaux. Nous avons même eu l'occasion de nous voir pendant nos dernières vacances estivales. Je précise ce point car cela ressort dans l'épisode. Avec son compagnon Alexis, ils ont fait une petite Alice, 5 ans, et ont décidé de s'arrêter là, au moins pour le moment. Le sujet de l'enfant unique est un sujet presque tabou encore aujourd'hui. Élise nous raconte ce qui a amené leur réflexion sur le sujet et répond à diverses questions. Comment cette question est venue à eux dès la maternité? Comment se rendent-ils compte qu'il n'y a plus de désir d'enfant? Et quels sont les enjeux autour de ce sujet, que ce soit les enjeux dans le couple, dans la société, professionnelle et personnelle? Parfois, il peut aussi y avoir des maladresses sur ce point. À commencer par la mienne, dès la première question, en lui demandant « Pourquoi avez-vous fait le choix de n'avoir qu'un seul enfant ?» Je vous laisse écouter sa réponse et je vous souhaite une très bonne écoute.
J'aime pas tellement qu'on me dise que j'ai un seul enfant.
Ok.
J'ai une enfant.
Tu as une enfant.
Mais j'ai pas un seul enfant. Parce que dire un seul enfant, ça impliquerait qu'il manque quelque chose. Et je suis pas tellement d'accord avec ça.
Donc tu as une enfant.
J'ai une enfant, en effet.
Et tu ne souhaites pas en avoir d'autres.
Exactement.
Et donc toi, ta fille, tu as choisi que ça serait ton seul enfant.
Ouais.
Vous avez choisi ça ensemble, sûrement avec ton mari.
Alors en fait, bon déjà on n'est pas encore mariés, ça viendra mais c'est pas encore
Alexis,
fait.
Alexis, il y a une demande à faire.
C'est déjà fait.
Ah.
Eh oui, mais, c'est tellement pas le sujet de ce podcast. Et en fait, si tu veux, on a ce désir chacun de notre côté, donc ça tombe bien. Ça tombe bien qu'on ait tous les deux ce désir de l'enfant unique, de l'unique enfant, ouais, de pas avoir d'autres enfants. Et c'est marrant parce qu'en fait, même si on a cette envie-là, on en parle quasiment toutes les semaines de ce sujet-là.
Ah, c'est marrant ça.
Ouais, c'est un sujet qui s'arrête jamais, enfin qui est toujours présent.
Comment t'en es venu à te dire ? Alors peut-être qu'après tu pourras nous parler de la réflexion de couple. Mais toi, individuellement, comment t'en es venu à te dire que ta fille serait pour le coup votre seul enfant?
En fait, c'est venu un peu petit à petit parce que tu vois, quand j'étais enceinte, je ne savais pas que ça serait ma seule grossesse. Bon, déjà, ce n'était pas ma seule grossesse et ça, je l'ai conscientisé que très récemment puisque j'ai déjà vécu une grossesse avant ma fille que j'ai choisi d'arrêter. Donc, j'ai choisi d'avoir recours à l'avortement il y a maintenant 12 ans. Ça fait longtemps. La grossesse de ma fille n'est pas ma première grossesse, elle est ma deuxième grossesse, sauf qu'à l'époque où je la vivais, ça, je ne le conscientisais pas. Pour moi, c'était ma première grossesse. Par contre, quand j'étais enceinte, je ne pensais pas que ça serait la seule. Mais je ne pensais pas non plus que forcément à la prochaine, tu vois. Parce que je sais que parfois, on peut penser ça, dire « Ah, ben, la prochaine, je ferai comme ça » ou « À la suivante, ça se passera comme ça ». Et en fait, moi, non, jamais. Mais je savais pas non plus que c'était la seule. Et en fait, c'est un truc, c'est pas un choix qui a été arrêté dès le départ, c'est que ça s'est venu en fait. En fait, quand tu te poses la question d'avoir un deuxième enfant, enfin, quand surtout les gens te posent la question du deuxième enfant, parce que je pense que c'est surtout la question des gens avant nos propres questionnements, parce que déjà à la maternité, on me posait les personnels soignants me posaient déjà la question, enfin, en me disant ah bah pour le prochain. Calmez-vous en fait, s'il vous plaît, mon périnée est un peu en mille morceaux, enfin détendez-vous, on va déjà faire celui-là, après on verra bien, mais c'était ouais, tout de suite penser à la suite et penser à l'autre enfant, alors que non, on n'y était pas du tout parce que ben, on venait de devenir parents, et ouais, c'est quelque chose qu'on a commencé à nous demander, et donc du coup qu'on a commencé à questionner, que j'ai commencé à questionner, et en fait, autant pour ma fille, l'envie était là, c'était même pas une question, enfin j'avais envie d'avoir un enfant, j'avais envie d'être mère, enfin elle était très désirée, mais là, il n'y avait aucun désir qui était là, il n'y avait pas cette envie de connaître une nouvelle grossesse, il n'y avait pas cette envie d'avoir un autre enfant, c'était juste pas là, et c'est ça qui m'a questionnée.
Et c'est toujours pas là.
C'est toujours pas là.
C'est ça le truc aussi. Enfin, tu vois.
Ouais, non, c'est toujours pas là. En tout cas, non. Ouais.
Que ça soit pas là alors que tu viens d'avoir ton vagin et ton utérus enchanté. Enfin, tu vois.
Ouais.
Je l'entends totalement que ça soit toujours pas là pendant. Enfin, je l'entends dans tous les cas. Hein,
ouais, ouais, ouais.
Mais que ça soit toujours pas là parce que le postpartum, franchement, c'est pas la joie. Et voilà, que ça soit toujours pas là parce que t'en as rien que des couches, parce que la charge mentale, c'est compliqué. Et j'entends aussi.
Ouais.
Et là, c'est toujours pas là. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment le fait que c'est ok, c'est assez, quoi.
Mais en fait, le truc, c'est que les raisons pour lesquelles c'était pas là n'ont pas toujours été les mêmes. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu un postpartum assez compliqué parce que je n'étais pas assez informée et parce que je m'attendais pas à ça. Et en fait, je voulais juste pas revivre ça. Au départ, c'était ça. Je voulais pas revivre un postpartum. Sauf qu'aujourd'hui, ben, avec tout le travail que je fais, avec tout ce que j'ai appris, je sais très bien que si je vivais une deuxième grossesse et une deuxième naissance, ça ne se passerait pas comme ça. Puisqu'aujourd'hui, j'ai l'information. Tout comme ma grossesse, bon, c'était très bien passé, mais la naissance, c'était pas... Enfin, aujourd'hui, j'ai appris tellement de choses que je sais exactement quel type de naissance je voudrais et je sais ce que je mettrais en place. Donc, ça serait forcément différent parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de connaissances. Il n'empêche que ce désir n'est toujours pas là. Et à chaque fois, il y a toujours un truc qui s'ajoute. Tu vois, je dormais pas beaucoup la nuit. Là, ça fait, je sais, je vais peser mes mots quand je vais le dire, mais ça fait un mois que je dors la nuit parce que ma fille ne se réveillait toutes les nuits encore. Donc 4 ans et demi plus de nuits, c'est long. Donc au début, je voulais pas. Enfin, il y a eu cette période-là de ben non, parce que je veux pas retomber là dans ce sommeil-là. Et après, il y a eu ben non, j'ai envie de développer ma carrière. Non, j'ai envie. Il y a toujours une excuse en fait. Et je me dis que s'il y a une excuse, c'est qu'en fait le désir il est juste pas là. Parce qu'en fait, quand j'ai désiré ma fille, peu importe la situation dans laquelle j'étais en fait. C'était elle, enfin elle, je savais pas, mais en tout cas c'était ça. Je voulais être mère, Alexis voulait être père, on voulait être parents en fait. Et il y avait peu importe la situation, peu importe là où on habitait, peu importe, en fait ça primait sur tout. Aujourd'hui, il y a tout qui prime sur ça. Donc enfin c'est qu'il y a le désir est pas là quoi.
Alors moi ça c'est hyper intéressant pour le coup d'entendre ce schéma inverse un petit peu de la réflexion qu'on fait pour avoir un enfant.
Ouais.
Et il y a quand même quelque chose qui m'interpelle, c'est puisque le désir n'est pas là, pourquoi on se pose la question ?
Parce que, tu vois, pour autant, même s'il n'y a pas le désir, par exemple, je ne me ferai pas stériliser, par exemple. Et je ne veux pas qu'Alexis se fasse stériliser aussi. Parce que, en fait, je veux avoir cette option de changer d'avis et je veux être sûre qu'en fait, même si la question... Enfin, d'être sûre que c'est vraiment ce que je veux. Et puis, en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de facteurs extérieurs. Il y a beaucoup de questionnements aussi pour ma fille, en fait. Est-ce que ça lui convient d'être seule ? Est-ce qu'elle a envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur ? Est-ce qu'elle est heureuse comme ça ? Il y a aussi ce questionnement-là autour d'elle qui se pose beaucoup. Et moi, je me pose beaucoup sur ça. Et je pense que je projette ça parce qu'Alexis, pas du tout. Parce que moi, j'ai une sœur et Alexis, il est fils unique. Donc, en fait, lui, c'est quelque chose qu'il projette pas du tout. De cette question de est-ce qu'il s'inquiète même pas de savoir si elle est heureuse seule ou pas. Mais moi, si. Mais je pense que c'est une question de vraiment de schéma familial, de son schéma familial et du mien, en fait. J'ai parfois peur qu'elle passe à côté de quelque chose.
Et tu penses que tu pourrais... Tu penses que le fait de te dire que ta fille pourrait passer à côté de quelque chose, ça serait une raison suffisante pour oublier le fait que toi, tu n'aies pas ce désir ?
Non, parce que sinon, j'aurais déjà un autre enfant.
D'accord.
Non, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'évoque assez souvent, de me dire qu'en fait, on fait pas un enfant pour quelqu'un d'autre, que ce soit son conjoint, sa conjointe ou son enfant, en fait, ou ses parents, parce qu'ils voudraient être grands-parents. Enfin, on fait pas un enfant pour quelqu'un d'autre parce que avoir un enfant, à mon sens, c'est un acte purement égoïste, en fait. Et donc, c'est pour soi qu'on le fait. En toute, je me prends souvent des taquets quand je dis ça, mais c'est vrai.
J'ai une vision différente.
Mais parce que tu veux partager, il y a une question de don aussi, mais le désir d'enfant, de la puissance que moi je l'ai vécu et qu'il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter dans ce désir-là, c'était quand même profondément égoïste. Bien sûr que j'ai envie de tout lui donner, bien sûr que j'ai envie de partager plein de choses et j'ai envie de l'emmener, enfin de lui offrir et de lui de lui partager, lui montrer, de lui donner une vie vraiment trop cool. Et il y a beaucoup d'altruisme dans tout ça. Il n'empêche que ma fille n'a jamais demandé à naître, tu vois. Ma fille n'a jamais demandé à être là. Même si elle est très contente, je lui demande régulièrement. Pour l'instant, elle est satisfaite. Mais voilà, elle n'a pas demandé ça.
Mais pour autant, si tu veux, alors moi, j'entends que le désir vienne du parent. Alors, après, toi, ce que tu ressens, j'ai pas de problème avec ce que tu ressens. Hein. Ça t'appartient, hein. C'est bien. Mais si tu veux, moi, je pars du principe parce que moi aussi, j'ai un désir extrêmement profond. Mais c'est pas un désir que je qualifierais d'égoïste. Parce qu'en fait, cet enfant, moi, qu'on a eu avec ma compagne, à titre très personnel, je l'ai fait pour quelqu'un d'autre, en effet. Je l'ai fait pour elle. Je l'ai fait pour ma fille. Tu vois, je l'ai fait pour cet enfant qui n'était pas encore là. Je l'ai fait pour essayer de lui donner le meilleur. Et je me suis beaucoup questionné avant sur pourquoi. Est-ce que c'était pour moi d'achever des choses que je n'avais pas réalisées dans ma vie. Enfin, bon, ça, c'est des choses que j'ai réglées bien avant, pour le coup, de devenir papa. Et donc, c'était pas ça non plus. C'est juste que j'avais cette envie de transmettre et j'avais envie d'accompagner un être dans le monde. Et en fait, je l'ai bien fait pour quelqu'un d'autre. Je l'ai fait pour ma fille. Tu vois ?
Ouais. Bah, j'entends, hein, j'entends. Et moi aussi, je respecte ton sentiment. Sauf que moi, j'ai vraiment, pour le coup, pas du tout
celui-là. C'est drôle.
Pas du tout, du tout, du tout. Et je l'ai pas. Elle est pas là pour. Enfin, elle n'est pas là parce que je pensais à elle. Alors, c'est encore. C'est pas ça. C'est que vraiment, j'avais. Moi, enfin, ce désir-là, il était. On s'aimait tellement fort, en fait, avec Alexis, que moi, je pense que j'avais besoin d'une autre personne à aimer parce qu'en fait, c'était trop. Et du coup, j'avais besoin de et c'est vrai que ça m'a apaisée, hein, dans un sens, de tous ces sentiments que j'arrivais pas à, enfin, que le pauvre il se prenait comme ça là. Et j'avais besoin vraiment d'aimer une autre personne, mais de me servir de cet amour là et de l'offrir à une autre personne et de le donner à une autre personne, mais pas pour elle vraiment, c'était plus pour moi finalement, plus qu'autre chose. Mais ceci dit, quand tu me parles de quand tu dis tu l'as fait parce que tu voulais lui apporter et transmettre à cette future personne, et ben quand je pense à un éventuel deuxième enfant, et ben par contre là je visualise une éventuelle personne, parce que je dis tellement que je ne veux pas d'autre enfant, je dis tellement, enfin plein de choses, il y a tellement d'arguments qu'en fait j'ai peur que si un jour je change d'avis, cet enfant tombe sur tout ce que j'ai pu dire et le prenne hyper mal. Et se disent, en fait, elle m'a pas du tout désirée, celle-ci. Enfin, genre, je suis le vilain petit canard. Enfin, c'est pas. Et alors qu'en fait, en soi, si j'avais un deuxième enfant, c'est que pour le coup, il aurait été vraiment, vraiment désiré, parce que voilà.
Mais je pense que tu touches un sujet qui est hyper important. C'est déjà le fait qu'on a le droit. On a tout à fait le droit de dire je ne veux pas d'enfant, ou je veux un seul enfant, ou je veux cinq enfants, et changer d'avis. On a juste le droit de changer d'avis, tu vois.
Bah oui, on a le droit.
C'est pas parce que demain, je sais pas, peut-être que dans un an, on refera un podcast qui s'intitulera « Comment j'ai changé d'avis ?»
Alors, dans un an, non. Je pense pas.
Mais non, mais tu vois, je spécule. Mais je me dis, tiens, on a le droit de changer d'avis déjà.
Ouais.
Et il y a vraiment ce côté, donc, pas de désir de deuxième enfant. Ok. Est-ce qu'il y a des raisons dans ton expérience avec ton premier enfant, vraiment précises, qui viennent jouer sur ce non-désir d'enfant ?
En fait, on a ce sentiment d'être au complet. En fait, elle nous comble complètement. On est bien tous les trois. Donc, c'est pas lié à elle particulièrement. Mais vraiment, en fait, il y a cet équilibre qu'on a tous les trois qui est, à mon sens, hyper précieux et qui vaut tout, en fait. Qui vaut. Il n'y a pas de place, en fait. Il n'y a juste pas de place. Il n'y a pas de place pour une autre personne. On n'attend personne, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'on n'attend personne. J'ai envie de dire futur enfant, on ne sait jamais, désolé. Mais tu vois, non, on n'attend personne. Il y a pas cette. Et pour en avoir discuté avec plein de copines, tu vois, qui avaient justement ce désir de plusieurs enfants, elles me disaient, on n'est pas au complet, tu vois. Et ou même typiquement d'autres personnes qui me disent, ben, j'ai eu mon premier enfant qui viennent de donner naissance, tu vois, et qui me disent, ben ouais, pour le prochain, ou le deuxième, le troisième, et tu sais, qui se projettent vachement. Et moi, je n'ai pas ça. J'ai pas envie de... Voilà, il y a ce truc de, ben, on est bien tous les trois, on a un équilibre qui nous convient parfaitement. Et en fait, quasiment tous les jours, quand on vit des trucs trop beaux et trop forts, on se dit, oh là là, en fait, il faudrait pas que ça change. Oh là là, t'imagines, heureusement qu'on est là comme ça tous les trois, parce que c'est trop génial. Et moi, c'est vraiment, c'est que du... C'est l'aspect positif, hein, qui me... Il y a pas de... C'est pas parce que mon enfant est... Enfin, que j'ai des difficultés avec l'éducation de mon enfant, que j'ai des difficultés avec elle dans notre relation, quoi que ce soit. Pas du tout, parce qu'en fait, au contraire, j'ai une relation de folie avec ma fille. Enfin, on est hyper... Alors, pas fusionnel, on n'est pas fusionnel du tout, mais enfin, on est très proches. Enfin, il y a de la communication, il y a de l'émotion, il y a... Enfin, on parle de tout et tous les trois, et ça marche bien. Et je pense que c'est parce que ça marche très, 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 très bien comme ça qu'on n'a pas envie de changer les choses.
Ben, tu vois, moi, je te posais cette question parce que quand je regarde l'année 2021... Alors, pourquoi c'est déjà... Hein, pourquoi est-ce que je vais te dire pourquoi moi je fais ce podcast? Parce que c'est un sujet chez moi. C'est un sujet chez nous. Et quand je regarde 2021, je me dis, tiens, c'est marrant parce que dans notre quotidien, il y a des moments, notamment quand on était en vacances. Alors, Élise et moi, nous sommes croisés pendant nos vacances.
C'est vrai.
Et elle avait pris un sacré coup de soleil. Cet homme nage très bien. Et c'est vrai que si tu veux, c'est marrant parce que en voyant jouer nos enfants ensemble, je me suis dit, c'est vrai que c'est chouette de les voir jouer avec d'autres enfants. Mais il y a des amis pour ça déjà, premier point. Et deuxième point, c'est vrai qu'à un moment, avec ma compagne, quand on s'est retrouvés en un petit peu, on faisait du camping dans la nature, on s'est dit, tiens, c'est vrai que ça serait peut-être chouette qu'il y ait... tu veux, quand tu te projettes, tu dis, ça serait chouette de voir deux enfants jouer. Sauf que, c'est bien mignon de dire ça. Sauf que ça veut aussi dire avoir deux fois plus de choses à gérer pour le départ en vacances.
Ouais.
Et malheureusement, et je vais peut-être choquer du monde, hein, mais dans notre situation où moi j'ai ma fille en instruction en famille et où je passe énormément de temps avec elle, en fait, je peux vraiment compter le nombre de fois où je vois que je suis en dépense d'énergie, tu vois, extrêmement élevée, et où je me dis, avec un enfant de plus, c'est pas possible, quoi. Et c'est sur des choses qui t'arrivent, toi, de te dire ça?
En fait, moi, tu vois, il y a un truc qui me... Et parce que moi aussi, j'adore voir ma fille jouer avec d'autres enfants, et c'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup d'amis qui ont des enfants plus ou moins du même âge, mais enfin, avec qui elle peut jouer. Mais il y a aussi une différence, tu vois, c'est... Tu vois des amis qui ont des enfants qui ont plus ou moins le même âge que ton enfant, ça va. Mais avoir un bébé, c'est pas la même chose. Et parce qu'avant avant d'avoir deux enfants, t'auras un enfant et un nourrisson. Et en fait, cette période-là, moi, je la trouve vraiment assez... compliqué, je pense, à gérer. Alors après, parce que c'est pas mon désir, je pense aussi, et que du coup, moi, je vois que l'aspect négatif, hein, de la chose. Mais tu vois, de dire, ben oui, un jour, ils pourront jouer ensemble, mais dans combien de temps, tu vois? Dans 3 à 4 ans, enfin, et en attendant, ben, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et non, mais en termes de logistique, moi, nous, ce qu'on chérit par-dessus tout, c'est d'être en supériorité numérique. Enfin, je veux dire, ça quand même pas de prix. on est 2 pour 1, c'est-à-dire qu'en fait, je veux dire, quand on en a besoin, si l'un de nous deux en a besoin, ben en fait, il peut s'accorder et prendre du temps rien que pour lui. Typiquement, là, cette semaine, enfin la semaine dernière, il y a eu un jour, j'ai fait un blackout complet, fièvre et machin. Je suis restée dans mon lit toute la journée. Mais en fait, je pense qu'on n'aurait pas pu faire ça comme ça si on en avait eu 2, 3 ou plus. Enfin, tu vois, parce que ben là, c'était facile et je me suis même pas posé la question.
Ben, tu vois, c'est exactement, c'est marrant parce que. Donc, on enregistre cet épisode, on est le 3 janvier, hein, il sortira au mois de mars. Donc, on sort des fêtes, en fait. Donc, vous verrez nos têtes tous les deux.
C'est sympa.
Tous les deux l'air bien fatigués. Moi, je vois à peine mes yeux tellement je les ferme. Et en effet, c'est marrant parce que nous aussi, à la maison, on a été vraiment malades pendant presque tout décembre. Et pourtant, on a travaillé à fond aussi. Voilà, on n'a pas vraiment pris soin de nous, on va dire. Et on s'est retrouvé, pas plus tard que ce week-end, moi, je me suis retrouvé à vraiment avoir ma compagne qui est KO et à partir avec Sarah plusieurs heures pour que ma compagne se repose, tout en me disant, ouais, mais si là il y avait, et c'est marrant parce que tu parlais du bébé, je me suis dit, si là il y avait un bébé, donc chez nous à l'été à la demande, comment on fait, tu vois? Parce que je me retrouverais avec un bébé soit qui pète un câble parce que maman n'est pas là, un nourrisson quand même, allaiter à la demande, c'est quand même très proche de la mère, on va pas se mentir. Et en même temps, pour le coup, la possibilité, enfin l'impossibilité de me barrer, quoi. Tu vois,
ah oui.
Parce que là, tu vois, je suis parti avec Sarah au bord d'un lac, il faisait beau, on était le 1er janvier, et elle s'est même pas demandé où était sa mère, si tu veux. Tu vois.
Exactement. Et ça, c'est un truc que tu fais pas avant, et ça, c'est un truc que moi, j'ai eu, tu vois, tu parlais de trucs qui n'ont pas de lien, mais moi, enfin, Alice, elle a été très proche de moi pendant longtemps, et du coup, il y a eu des moments où, en fait, si j'étais, par exemple, dans la maison, ben c'était vers moi qu'elle allait, c'était pas vers son père. Donc les trucs de malade et tout ça, c'était pas possible pendant un moment. Aujourd'hui, ça l'est, et j'ai pas du tout envie de retourner en arrière. Et il y a un truc qui est purement égoïste aussi, et ça qui regarde peut-être, enfin qui regarde si ça le regarde, mais qui n'a rien à voir, qui est pas du tout le même point de vue par rapport à Alexis, c'est que moi, avoir un autre enfant, ça veut dire mettre 2 ans de ma vie entre parenthèses.
Et bien sûr.
Parce qu'en fait, ça veut dire une grossesse. Alors, ma première grossesse s'est très bien passée, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai rien eu. Enfin, j'ai pas eu de problème. Donc, en soi, ça pourrait aussi très bien se passer. Il n'empêche qu'il y a le postpartum, qu'il y a l'allaitement, parce que nous aussi, c'est allaitement. Et parce que je changerais pas d'avis si j'avais un autre enfant, tu vois. Donc, ça, c'est sûr. Donc, tout ça, ça serait ma charge, en fait. Et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Oh, même si j'ai adoré être enceinte, j'ai adoré allaiter et je le referais 1000 fois si j'avais 1000 enfants. Ben, en fait, ça, j'en ai pas envie. J'ai pas envie de... En fait, je pense que je le vivrais comme une injustice. Même si c'était un choix, je le vivrais comme une injustice. Je pourrais pas être malade, tu vois. Moi, ça me fatigue de pas pouvoir être malade. C'est pas possible.
Non, je comprends. C'est vrai qu'il y a vraiment ce côté du nourrisson et qui demande beaucoup. Alors après, bien entendu, moi, le premier, je suis convaincu que le père ou le coparent a un rôle aussi important à jouer, mais il y a dans les premiers mois de vie, enfin au moins dans les premiers mois de vie, certains diraient la première année pour certains spécialistes de santé, hein, j'entends, disent la première année, c'est quand même beaucoup la mère qui est sollicitée, et en effet c'est mettre sa vie un petit peu entre parenthèses. Je sais que tu vois, moi par exemple, ma compagne, c'est quelque chose auquel elle a pensé. Pour elle, c'est se dire... Alors, de toute façon, elle est obligée de faire un prêt pour faire un congé maternité. Voilà.
Mais tu vois, c'est ça aussi, on n'en prend pas forcément... Libérale, voilà.
Non, mais c'est ça.
Toutes les situations sont à prendre en compte. Hein.
Et c'est pas simplement je pars en congé mat, tu vois. Il faut que je fasse un prêt sur plusieurs années. Mmh. Donc, c'est aussi des choses dont on se prive à un autre moment. Enfin, voilà, il faut en avoir conscience.
Ouais.
Moi, j'ai la chance, si mon activité telle qu'elle est, se reste telle qu'elle est, de pouvoir... stabiliser un peu, mais encore que...
Tu vois, c'est aléatoire.
Mais ouais, et puis même, tu vois, comme je disais, c'est là, on part aussi du principe que tout se passe bien, et encore une fois, moi, je suis sur un équilibre. Tu vois ce que je veux dire ?
Ouais,
et un petit peu, comme tu disais, on se sent bien, on se sent complet, ben moi, je me sens en équilibre. Et un bébé, là, maintenant, hein, j'entends, tu vois, si tu me dis, demain, je gagne l'auto, j'ai plus besoin de travailler... Franchement, par contre, je suis OK pour faire un autre bébé, tu vois. Si j'ai plus... En fait, si tu m'enlèves de la charge mentale, je suis OK pour en rajouter. Parce que j'aime bien... En fait, j'aime bien mon niveau de charge, là, tu vois, global. Même s'il est élevé... Non, mais c'est vrai.
Ouais.
Bah, y a des gens comme ça, et j'en fais partie pour le coup. Même si mon niveau de charge est globalement élevé, j'aime bien avoir ce niveau de charge. Bah, si demain, on me dit, t'as plus besoin de travailler, franchement, mais tu peux avoir un autre enfant parce que ta compagne en veut un, je suis OK, tu vois. Mais là, en fait, il y a vraiment ce côté niveau de charge pour moi qui est... Je suis en équilibre et je veux pas venir briser cet équilibre. Et ça me semble se rapprocher un petit peu de ce que tu disais en disant, ben bah, nous, on est bien là.
Ouais. C'est ça. C'est ça. Et puis, enfin, ce que tu dis est aussi intéressant par rapport à la situation professionnelle et nos ambitions. Parce que c'est pas le même délire quand t'es à ton compte de décider de... Et encore, j'ai eu ma fille, j'étais déjà à mon compte, hein, donc je sais très bien ce que c'est que de ne pas avoir de congé maternité. Et moi, j'ai repris le travail avec Alice, elle avait 6 semaines, je crois. Et encore au début, je devais faire 4 semaines, mais j'ai réussi à... Je m'étais mis 2 semaines de sûreté au cas où, et j'ai bien fait. Et j'ai repris mon travail à 6 semaines, mais donc avec un bébé de 6 semaines avec moi.
C'est vrai.
Le fameux pic des 6 semaines. C'était fantastique, hein. C'était vraiment... Ouh, un régal. Et voilà, et ça, aujourd'hui, ça se... Bon, à l'époque aussi, Alexis était salarié, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, en fait, il y a aussi plein de choses comme ça qui ont changé et qui étaient hyper confortables à l'époque, parce qu'à l'époque, ben, il était salarié dans une entreprise qui nous permettait d'avoir une crèche d'entreprise, par exemple. Ça, c'était facile. à moindre coût. Aujourd'hui, on devrait se taper des trucs qui, pour faire garder notre enfant, qui seraient beaucoup trop élevés financièrement que ce qu'on pourrait se permettre. Donc, ça voudrait dire avoir notre enfant à la maison. Sauf qu'en fait, c'est bien pour ceux qui le souhaitent. Moi, j'ai vraiment... Enfin, si, au début, si. Hein, clairement, moi, j'ai passé 6 mois avec elle et c'était 6 mois de pur bonheur. Par contre, au bout de 6 mois, il fallait que ça s'arrête. Elle n'a pas été à la crèche à temps plein parce qu'on ne le souhaitait pas. Mais par contre, ça a été bénéfique. J'ai été une meilleure mère ensuite parce qu'en fait, j'ai tout fait. Parce que c'est pas seulement en fait de l'avoir avec moi tout le temps, c'est qu'en fait, je travaillais en même temps. Je travaillais en ayant mon bébé et en ayant seule à gérer tout ça, en étant seule à gérer tout ça, avec une frustration de la part d'Alexis parce que ben en fait, moi, j'étais au quotidien avec elle et pas lui. Et donc du coup, moi, je connaissais plus de choses que lui. Et donc du coup, je suis devenue la figure d'attachement de ma fille. Et ça a été hyper dur à vivre pour lui, parce que cette histoire de figure d'attachement, on n'en parle pas assez. Hein.
Écoute, ça tombe bien parce que j'ai sorti un livre le 13 janvier 2022 qui s'appelle « Tu vas être papa » et justement, j'en parle. Mais,
dis donc.
Je te laisse continuer.
On l'a pas fait exprès, mais...
C'était la coupure autopromo.
La coupure pub. Quoi, tu fais des pubs sur ton podcast, Cédric ? Oh là là, c'est pas bien.
C'est un autre sujet. Reprends ton récit, donc la figure d'attachement.
Et en fait, ça a été dur parce que ça a été dur pour moi parce qu'en fait, j'avais l'impression que sans moi, ça n'allait pas. Et j'aime bien mettre les mots « j'avais l'impression que
ouais, ».
C'est bien. Quelque chose qui était très, très interne à moi. Enfin, c'était mon ressenti. C'était pas... Aujourd'hui, je sais que c'est faux.
Oui, mais alors pour le coup, par expérience de témoignage, je pense que tu as les mêmes. C'est quelque chose qu'on retrouve dans plein de couples parentaux, dis donc.
Ben oui, mais parce qu'en fait, quand tu es 24 heures sur 24 avec ton enfant, il n'y a que toi qui le connais aussi bien. Et tu as beau avoir fait un enfant avec une autre personne qui a a priori 50% des gènes de ton enfant, en fait, elle ne le connaît pas comme toi tu la connais. Et en fait, confier ton enfant à son père devient parfois aussi difficile que confier ton enfant à quelqu'un qui la voit peu, parce qu'en fait, il ne la voyait pas. Et c'était dur pour lui, parce qu'en fait, il y avait des choses qu'il ne comprenait pas, des réactions qu'elle avait, qu'il ne comprenait pas. Alors que moi, en un coup d'œil, je les comprenais, je savais exactement ce qu'il fallait faire, donc il se sentait super impuissant, donc il se sentait nul. Donc en fait, après, moi, je devais le rassurer, mais ça me saoulait. Et donc, du coup, je me trouvais nul. Et donc, enfin, on est entré dans un cercle vicieux. Non, mais le baby clash et les machins de découpe qui se séparent la première année, on aurait pu le faire 1000 fois. Je sais même pas comment on a résisté à ce truc-là, parce que c'était l'enfer. Et à un moment, quand Alice a eu 10 mois, j'ai eu l'opportunité d'avoir un job salarié. Et donc, du coup, j'ai été séparée un peu plus de ma fille. Elle allait à la crèche un peu plus souvent et il a eu l'opportunité d'être là plus avec elle, parce que le soir, quand il rentrait avec elle, j'étais pas là. Parce qu'avant, je travaillais à la maison. Et là, je ne travaillais plus à la maison. Et là, ça a changé la donne, en fait. Et déjà, elle m'a fait un truc que je n'ai pas compris. Pendant 4 mois, elle ne voulait plus me parler. Bon, elle était petite, elle avait 1 an, mais elle ne me parlait pas. Mais elle ne voulait plus me parler quand même. Elle me rejetait. Alors, je ne sais pas tellement pourquoi. Mais donc, du coup, c'était devenu que papa. Et dès que j'apparaissais dans la pièce ou dès que je rentrais du travail, elle me rejetait complètement. Et ça, c'était chaud. Et c'est arrivé à peu près en même temps où elle a décidé d'elle-même d'arrêter son allaitement. Ça aussi, c'était intéressant comme chose. J'ai pas kiffé, personnellement, j'ai pas kiffé qu'elle prenne cette décision, mais bon, c'était la sienne. Et voilà, et par contre, mais l'équilibre s'est pas remis à ce moment-là pour autant, parce que enfin après, ça a rebasculé, parce qu'Alexis a fait un burn-out, donc en fait, ça s'est réinversé, donc c'est moi qui ai repris le relais pendant tout le burn-out. Et en fait, il s'est passé énormément de choses pendant les 3 premières années de vie de notre fille, en fait, pour nous. En tant qu'être humain, en tant que parent, et ça a été très dur. Et en fait, ça fait un peu plus d'un an, 1 an et demi, qu'on a l'impression aussi d'être sorti du tunnel et d'avoir une vie où c'est un peu cool, où on n'a plus de difficultés, bon, à part les réveils nocturnes, mais enfin, je veux dire, à l'endormissement, c'était plus compliqué. Alors que moi, je revois Alexis dans le couloir de notre ancien appartement faire les 100 pas pendant des heures le soir, en fait, pour que... Et tu vois, tout ça. Mais après, aujourd'hui, c'est des trucs que peut-être qu'on ne ferait plus parce qu'on a d'autres connaissances. Mais ça, j'ai le souvenir de ça, tu vois.
Juste sur le sommeil, je renvoie sur l'épisode numéro 53 de mon podcast qui sera sorti le 6 janvier.
Ça suffit, l'autopromo.
Non, mais c'est important. C'est important, ouais. parce que dedans, c'est avec Audrey Njavé et elle explique justement que bah, le sommeil, jusqu'à 4 et 6 ans, ça va être la galère. Quoi.
Ouais.
C'est quelque chose qu'il faut savoir.
Mais ça, on ne sait pas.
Si vous êtes jeune parent ou si vous voulez être parent, sachez-le. Si vous signez, un contrat, pendant 4-6 ans, ça va être compliqué.
Mais en fait, tu crois, enfin, on te dit, finalement, on te fait croire que ça dure 6 semaines, tu vois.
Non,
non, c'est faux.
Ça, c'est de la merde.
Et je sais que moi, je le dis souvent, enfin, le dire qu'elle n'a pas dormi, elle s'est réveillée fréquemment la nuit jusqu'à encore il n'y a pas longtemps. À chaque fois on me répond mais toi faut pas t'écouter parce que si on t'écoute on fait pas d'enfants, mais en même temps j'ai pas envie de cacher les choses et c'est vrai. Alors après je dis pas que oui c'est difficile,
en même temps, c'est, après, le cycle, c'est le cycle normal que tu écris, en fait
c'est normal,
tout à fait normal,
et voilà c'est comme ça. Mais par contre après c'est vrai qu'il y a des choses qui deviennent plus faciles, notamment je pense à l'endormissement qui est devenu plus facile autour de 3 ans à peu près. Et en fait déjà là quand on a eu l'endormissement qui n'était plus une galère, bah, c'est déjà les mieux, tu vois. Déjà, il y avait quelque chose de beaucoup plus de sérénité. Donc, au début, je pense qu'on ne voulait pas de deuxième enfant parce qu'en fait, on ne pouvait pas, en fait. on ne dormait pas assez. On était trop ébranlés par ce qui s'était arrivé, ce qui était passé aussi dans nos vies. Le burn-out, ces histoires de trouver nos places, en fait, finalement. Et une fois qu'on a trouvé nos places, on n'a plus envie de devoir trouver encore nos places. Parce que c'était trop dur et je pense qu'avoir... Alors, je ne dis pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus stable en tant que couple, en tant que... Enfin, je pense que si on avait eu un deuxième enfant avant... Dans les 3 premières années, je pense que ça nous aurait séparés. Vraiment.
Je pense que c'est un vrai test pour le couple. Je pense que c'est... Enfin, très sincèrement, je pense que les enfants, le deuxième enfant et même les plusieurs enfants, notamment dans les premières années de l'enfant... je dirais avant 6-7 ans,
ouais.
Je pense que c'est un gros test hein, quand même, pour le couple, quoi, parce que ça remet beaucoup de choses en question, parce qu'il y a un équilibre qui est là. Après, tu vois, par rapport au choix de deuxième enfant, moi je sais que je suis... Après, il y a mon âge aussi qui avance, mais tu vois, à titre personnel, je suis très attiré par l'idée de faire un enfant, si je veux faire un deuxième enfant, le faire plus tard, tu vois, vers 6-7 ans.
On a évoqué ce sujet pas plus tard que ce week-end.
Ah, bah vas-y, raconte-nous alors.
En fait, parce que, tu vois, tout à l'heure, je te disais que j'ai pas du tout envie de passer par une stérilisation, tu vois. Par exemple, j'ai un moyen de contraception et j'ai pas envie non plus qu'Alexis passe par une stérilisation parce qu'en fait, c'est pas quelque chose... Enfin, j'ai pas envie que ce soit définitif parce que je veux me laisser justement cette porte de me dire que peut-être que dans 5-6 ans, on aurait un deuxième enfant parce qu'en fait, on est hyper attiré par l'idée d'avoir deux enfants uniques. Si tu veux, il y a un truc comme ça parce que bon, on sait très bien que même si, ben, admettons, on a un enfant dans 5-6 ans, il y aura 10 ans d'écart entre nos deux enfants. Et on sait que, ben, bien sûr, ils vont grandir une partie de leur vie ensemble, mais finalement, qui sera assez courte et qu'ils ne seront pas élevés de la même façon, c'est certain. Et donc, en fait, les moments de privilégiés qu'on aura passé pendant 10 ans avec notre premier enfant, on pourra avoir des moments aussi privilégiés avec un deuxième enfant, en fait, parce que elle sera assez grande pour pouvoir l'entendre déjà, et il y aura une forme d'autonomie qui sera plus importante chez elle à ce moment-là, qui nous permettra d'être focus vraiment sur un nouveau-né ou quoi que ce soit. Tu vois, moi, je suis, ben, j'ai Instagram et je suis parfois des familles comme ça qui ont des ados, des pré-ados et qui accueillent un autre bébé et je trouve ça fascinant, en fait. Ça veut pas dire que c'est moins difficile, hein, mais je trouve ça fascinant, ces relations d'accueillir un enfant comme une personne et de le prendre en personne à part entière et pas comme fratrie, en fait. Et je trouve ça vraiment chouette. Et je crois qu'à la limite, je pense que si on devait avoir un deuxième enfant, ce serait dans ce cas de figure-là, mais pas autrement.
Ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis parce que j'ai un ami.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Avec qui j'ai parlé justement de l'écart d'âge de ses enfants, puisque c'est un ami, ses enfants ont 7 ans d'écart. Et la raison pour laquelle il voulait qu'il y ait cet écart-là, c'était pour que le premier ait des souvenirs d'enfant unique. Mmh. Et justement, pour que ce soit le fait qu'on rajoute une personne dans la famille. C'est-à-dire que tu existes sans ta fratrie.
Ouais.
Tu n'es pas que le fils d'eux, tu n'es pas que le frère d'eux, tu es qui tu es. Et je trouvais ça hyper intéressant comme approche, tu vois. L'autre point, après, il y a un point qui est aussi scientifiquement prouvé, c'est que vers 6, 7, 8 ans, il y a aussi ce qu'on appelle un âge de raison, pour faire simple,
ouais.
Qui fait qu'il y a une gestion des émotions qui est très différente chez l'enfant. Et après, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est qu'on a des amis qui ont, par exemple, eu 8 ans d'écart entre deux enfants, qui en ont 3, donc il y en a un au milieu,
ouais.
Mais bref, entre la plus grande, en tout cas, et la plus petite, il y a 8 ans d'écart. Et à 8 ans, la plus grande, enfin voilà, est capable de porter l'autre enfant, est capable de changer la couche. Enfin,
ça doit être un vrai soulagement.
Je suis pas en train de dire, tu n'utilises pas les gosses, tu vois, c'est pas ta nounou, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est juste qu'en fait, il se passe d'autres choses.
Mm-hmm. C'est-à-dire que tu pourrais peut-être prendre une douche avant 16 heures parce que la grande sœur pourra éventuellement bercer le bébé pendant 5 minutes. Et franchement, c'est un peu luxueux quand même comme situation.
Non, mais tu vois, c'est... Ouais. Alors, bien sûr, ça entraîne d'autres problématiques aussi. Tu vois, on en parlait aussi sur la gestion des écrans, c'est des choses qui amènent d'autres problématiques.
Tu peux pas élever ton deuxième enfant du coup de la même façon parce qu'il y a Exactement. Des choses à la maison.
Dans toutes les fratries, en fait.
Voilà.
Dans tous les cas, tu peux pas. Mais il y a vraiment ce côté-là. Donc ça, tu vois, moi, c'est vraiment quelque chose où on se dit, ouais, tiens, pourquoi pas à ce moment-là. En même temps, je te dis ça se trouve, ça arrivera pour nous. Mais c'est vrai que il y a ce côté choix qui est important et comment est-ce qu'il se structure et aussi comment. Et ça, j'aime bien ce que tu racontes puisque tu vois, c'est je le choisis là, mais peut-être que dans 2-3 ans, 4 ans, 5 ans. Mon choix sera plus le même.
Ouais. Après, il y a une autre question moi qui me sur cette question de plus tard, c'est que ben en fait, je me dis si on fait ce choix-là, ben je vivrai une grossesse à 37, 38 ans et je pense que c'est quand même pas la même chose de vivre une grossesse à 37, 38 ans que une grossesse à 27 ans comme moi j'ai pu le vivre, tu vois. Et ces petits trucs-là me font aussi un peu peur de me dire que ben l'intensité en tout cas des 3 premières années de tout ça autour de 40 ans, ça doit être un peu plus compliqué, même si on n'est pas des vieillards à 40 ans, hein, mais ça doit être quand même plus compliqué à gérer qu'en fin de vingtaine, comme j'ai pu le faire. Mais après, c'est peut-être aussi une croyance limitante. Hein, et
moi,
voilà.
Je suis devenu père à 35 ans.
Ouais.
Là, ma fille a 3 ans et demi, j'en ai 38. Est-ce que physiquement, il y a des choses qui sont plus complexes? Oui. Il y a évidemment des choses physiques, de fatigue, de forme physique qui sont plus complexes qu'à 30 ans, ça c'est une évidence. Et d'un autre côté, ce qu'il y a de dingue, c'est que ma fille est certainement ma première motivation pour prendre soin de moi.
Ouais.
Et je pense qu'à approcher 40 ans, c'est pas un luxe de se dire tiens, j'ai une vraie raison de prendre soin de moi.
Ouais.
J'ai une vraie raison de pas fumer. J'ai une vraie raison de pas, tu vois, de pas retomber dans des choses que j'ai fait plus jeune, quoi. J'ai une vraie raison d'essayer de me remettre au sport. Tu vois, c'est une vraie motivation. Et donc après, bien sûr que c'est forcément pas évident. Maintenant, je sais pas. Je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une question de, tu sais, l'énergie, c'est quelque chose qui, je fais une formation sur le sujet d'ailleurs, mais c'est quelque chose qui fluctue. Et donc, peut-être qu'il y a des moments où on trouve ça dur, peut-être des moments où on trouve ça tellement facile. Et peut-être qu'il y a des moments, si tu veux, comme tu vas avoir tellement d'expérience sur un premier enfant, en sachant que tout passe, comme dirait Fanny Vella, peut-être qu'en fait, on aurait aussi ce recul et cette sagesse, entre guillemets, tu vois, à 40 ans, de se dire, c'est bon, je sais que je galère, je sais que c'est dur, mais je sais que ça va pas durer.
Ouais. Et puis, il y a autre chose aussi, c'est-à-dire que quand je suis devenue mère de ma fille, il y avait tellement de choses que j'avais pas réglées. Et en fait, avoir un autre enfant plus tard, en fin de trentaine, disons-nous, en fait, je serais tellement pas la même personne. Enfin, je veux dire, il y a des choses, parce que je le suis déjà, beaucoup plus sereine sur plein de sujets, et beaucoup plus détendue, et beaucoup plus, enfin... C'est vrai, c'est ce truc de dire peut-être tout passe, mais pas que sur ça. Enfin, je veux dire, beaucoup plus peut-être dans... Enfin, les 3 années là, qu'on a vécues, je t'ai décrite, qui étaient quand même pas très reluisantes, elles ne se passeraient pas comme ça, en fait. Je le sais.
Aussi.
Non, je le sais, aussi. C'est sûr, parce qu'on peut pas vivre deux fois les mêmes galères quand même. Et non, mais parce que je sais qu'on a trop cheminé, on a trop avancé dans qui on est, on a level up, on va dire, enfin pour que ce soit que ça se reproduise en fait, tout simplement. Et il y a des connaissances qu'on n'avait pas, qui sont vraiment trop différentes. Et il y a des on pourrait asseoir un peu plus facilement nos choix sans se laisser influencer. Je pense à notamment tout ce qui est grossesse et naissance. C'est-à-dire, moi, la naissance de ma fille, j'étais en mode, si tu veux, moi, j'ai pas préparé mon accouchement. Je dis, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Et voilà, aujourd'hui, mais de même demain, je tombe enceinte. Jamais ça se passe comme ça. Jamais. Je prépare tout de A à Z, en sachant très bien que ça peut ne pas se passer comme ça, mais en ayant les clés, quoi. En me donnant les clés. Chose que je faisais pas, ce que j'ai pas fait, en fait, au début pour Alice. Et chose que je ferais forcément, que j'ai un enfant dans 1, 2, 5 ou... Alors, 10 ans, à mon avis, ça reste compliqué, parce que la biologie. Mais en tout cas, ouais. Parce qu'il y a ça aussi, hein, finalement. Alexis ne se pose pas tellement ces questions-là, parce qu'il n'y a pas cette horloge-là aussi, bah, que moi, j'ai plus.
Nous, les mecs, on sait qu'on est fertile. Alors, attention, il y a quand même des choses qui peuvent se passer, mais... On a une fertilité jusqu'à notre mort, donc c'est différent.
Et puis le corps prend quand même moins cher en tant qu'homme qu'en tant que femme l'enfantement, tu vois.
Oui, dans l'enfantement, oui, c'est sûr. Oui. Mais oui. Parce que dans la vierge,
non,
c'est
non,
pareil.
Non, après, oui. Je te parle des 9 mois plus naissance, mais, plus postpartum.
Ça, on est bien d'accord que faut aussi en avoir conscience, je pense. Mais j'aime beaucoup le fait que tu dises... Moi, il y a deux choses qui m'ont interpellé là dans ce que tu as dit. C'est le fait que tu as dit on a aussi cheminé, enfin, on a fait nos chemins. Il faut savoir que, par exemple, tu vois, Noëlla et moi, on avait chacun fait une thérapie. Et on a fait une thérapie de couple, ouais, à nos 30 ans. Puisque nous, on a eu Sarah, on avait déjà 13 ans de couple, hein, derrière nous.
Ouais.
Et si tu veux, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a énormément aidé. D'ailleurs, je le recommande à tout le monde et je l'écris dans mon livre. Si vous pouvez faire une thérapie avant d'être parent. Faites-le.
Ah, mais faites-le, mais moi, je ne l'ai pas fait, mais je vous le recommande.
et justement, tu vois, je pense que ces 3 années, si tu veux, dont tu parles aussi, il y a ce côté, thérapie, enfin, chemin que vous avez fait. Et aussi, il y a aussi vraiment le fait que, ben, vous savez, tu vois. C'est que, il y a vraiment ce moment, je trouve, quand c'est la première fois qu'on devient parent, ce moment où on a l'impression que ce qu'on vit là, ça va être quand la situation est difficile, et on va dire cet enfer qu'on est en train de vivre.
Ça va être
comme ça tout le temps. Et non, tout passe.
Ouais, c'est ça.
Et une fois que ça, tu le sais, bah, tu sais que pour le deuxième, ça va passer aussi.
Ouais. Bah ouais. Mais tu vois, même si je le sais, ça ne me donne pas pour autant envie.
Ah, mais moi non plus.
Parce qu'en fait, si tu veux, moi, j'ai l'impression de tous les matins, quand je me lève, je respire en fait. Et cette sensation-là, elle a disparu pendant beaucoup trop longtemps. Et j'ai envie de... Enfin, c'est beaucoup... C'est vrai que c'est quand même plus... Enfin, moi en tout cas, je ne sais pas si tout le monde le pense comme ça, mais moi je trouve ça beaucoup plus facile d'avoir un enfant plus grand. Même si les bébés, c'est chouette, hein, pour plein d'aspects. Mais moi, j'adore avoir une enfant plus grande. Enfin, tu vois, là, elle va avoir 5 ans. Il y a des échanges qui sont extraordinaires, c'est stimulant intellectuellement. Et moi, j'ai tellement besoin de ça, de cette stimulation intellectuelle. Alors après, on a des conversations. Mais déjà, j'aurais jamais cru avoir des conversations comme ça avec ma fille de 5 ans, soit. J'étais pas forcément prête à tout ça, mais c'est pas grave, parce que c'est ça, on apprend aussi avec elle. Hein. Mais il y a cet échange-là, cette transmission aujourd'hui, puis les activités où en fait on profite vraiment toutes les deux. C'est pas un truc de je joue, je sais pas à quoi on jouait quand on était bébé, mais il y avait beaucoup moins cette interaction. Aujourd'hui, on fait des jeux qu'on apprécie toutes les deux. Alors bien sûr, parfois il y a des trucs que j'aime moins, mais je le fais. Elle fait pas par contre l'effort de faire des trucs qu'elle aime moins pour me faire plaisir. Notons ça, hein, quand même, il reste, hein, c'est pas cool. Mais fin, tu vois, il y a quand même cette notion de plaisir partagé et de faire des choses tous les trois. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui me fait plus kiffer que d'être à table le soir, tous les trois, et de raconter nos journées et de discuter de plein de sujets et de l'entendre poser des questions sur des sujets. Enfin, elle est hyper intéressée, tu vois. Et ça, mais je kiffe tellement, mais je crois que c'est même pour ça que je suis devenue mère, en fait. C'est pour tous ces échanges-là. Qu'on n'avait pas avec un nouveau-né qui... Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'échange avec un nouveau-né, je dis juste qu'ils sont différents et qu'il ne me stimulait pas assez, il ne me contentait pas assez, ça ne me donnait pas assez. Alors que là, aujourd'hui, mais j'ai tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir, avec elle en tout cas.
Ouais, mais je comprends bien. Je comprends très bien et c'est vrai que c'est quelque chose de qui fait beaucoup de bien, je trouve. Mais encore une fois, tu sais, c'est cette notion d'équilibre.
Ouais.
Là, je suis bien comme je suis. Et puis, il y a aussi ce côté, si tu veux, quand tu te projettes, là, tu vois, moi, par exemple, quand on se projette, là, au moment où on enregistre, hein, quand je me projette comme ça sur le fait d'avoir un deuxième enfant, genre, dans l'année, tu vois, je me dis, waouh, financièrement, je suis pas stable. On est aussi en instruction en famille, nous, tu vois. Donc ça veut aussi dire, soit je suis mes deux instructions en famille, soit, comment dire, soit trouver une école qui nous convienne pour deux enfants plus tard,
Ouais.
sachant que ça coûte une
Ça coûte
méga
de
blinde
l'argent,
et
ouais.
que à date, en tout cas, on n'a pas les moyens, soit lâcher l'école publique. Donc, si tu veux, moi, ce qui m'interpelle, c'est que ça veut aussi dire quelque part, lâcher sur des choix de vie qui font partie de notre projet de vie, comme l'instruction en famille. Et j'ai pas envie qu'un deuxième enfant, en fait, vienne nourrir des regrets, tu vois.
Mais tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que autant pour Alice, enfin pour notre premier enfant, toutes les situations en fait ne comptaient même pas à côté du désir d'enfant. Alors qu'aujourd'hui, enfin, t'as ce truc de tu sais à quoi tu vas renoncer. Bon, après, déjà, tu sais, parce que tu sais pas aussi quand tu vas avoir un enfant pour la première fois, tu sais pas. Mais de se dire qu'en fait, à partir du moment où ce désir-là surpasse pas ce à quoi je dois renoncer, c'est qu'il n'est pas assez important et que ce n'est pas le moment. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et c'est suffisant pour me donner une raison. Après, alors, ce n'est pas un enfant, mais moi, je viens de créer ma société. J'ai
Oui.
créé mon entreprise il y a 2 mois. Tiens, ça fait 2 mois déjà. En fait, ça me prend trop d'énergie. Et je ne peux pas, en fait, je ne peux pas. Ce serait autant radier ma société aujourd'hui. Si je devais avoir un deuxième enfant, en fait, clairement, hein, je le dis, c'est vrai, parce que je n'aurais pas l'énergie, je n'aurais pas, je suis trop tôt dans cette création-là pour en fait entrevoir cette possibilité-là. Et puis j'en ai pas envie, mais en même temps, enfin, l'entrepreneuriat, à mon sens, pour moi, de la façon dont je la vois, de la façon dont je le vis, c'est aussi intense que la parentalité. C'est pour ça aussi que nous, on n'a pas fait ce choix d'instruction en famille. Pendant un moment, ça m'a questionnée, mais aussi parce que moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour être épanouie. Et du coup, je sais, enfin, dans la façon dont moi je le vois, c'était pas compatible avec une instruction en famille. Et aussi, ça a aussi été déterminé par notre choix d'enfant unique. Parce que Alice n'ayant pas de frères et sœurs, Alice en plus c'est la première à être arrivée dans notre groupe, dans notre famille et tout ça, donc elle n'a pas forcément beaucoup d'enfants de son âge autour. Elle avait un énorme besoin de stimulation et à la crèche, elle a trouvé cette stimulation-là. Elle était vraiment heureuse là-bas. Et donc du coup, on a continué comme ça, tout en ayant quand même dans un coin de la tête quand elle est entrée en petite section. Alors nous, on a fait le choix de l'école publique. Quand elle est entrée en petite section, on n'était pas très très serein, clairement, parce qu'on sait exactement comment ça se passe dans l'éducation nationale. Hein, tu vois, on y va en pleine conscience aussi. Hein, on sait faire quoi on va. On sait un choix quand même qui reste réfléchi. En petite section, quand elle est entrée, on s'est quand même dit, OK, alors on a cherché des écoles alternatives. Nous, on a la chance d'en avoir, c'est vrai, qui sont pas, qui restent accessibles à peu près. En tout cas, là où on habite. Donc, on sait qu'il y a toujours cette option-là. Donc, on a tenté. Si ça allait pas, je pense qu'on aurait tenté du coup l'autre école qu'on avait vue. Et si ça n'allait pas, par contre, on était prêt à remettre nos choix et nos envies en question, en fait, pour elle. Il se trouve que cette dame est fan inconditionnelle de l'école. Vraiment, si je la privais aujourd'hui, je crois qu'elle en serait malheureuse. Et parce qu'on a eu la chance aussi de tomber sur des profs vraiment extra et qu'on est dans une école où, je vois, tout se passe super bien. C'est-à-dire que c'est peut-être la ville, hein, qui veut ça aussi, mais avec des bons budgets, ils ont les moyens de faire des choses sympas. Et donc, du coup, ça aide beaucoup. Alors, pour l'instant, maternelle, c'est comme ça. Je ne sais pas comment ça se passera à l'école primaire et on en reparlera, on en fera un podcast, si tu veux, dans 1 an et demi. Mais en tout cas, pour la maternelle, ça se passe comme ça. Et pour, du coup, moi, je fais partie du truc de... Comment ça
Les parents d'élèves.
s'appelle? Non, pas les parents, pas le truc d'association, mais... Enfin, je vais au conseil d'école avec les profs et tout ça. Donc, je sais ce qu'ils disent, je sais quels sont les projets pédagogiques parce que c'était important pour moi d'avoir ces informations-là. Et je sais qu'on est sur la même longueur d'onde, donc du coup, c'est pour ça qu'on y est. Et typiquement, quand parce que la maîtresse de ma fille s'appelle Alice aussi, c'était le gros sujet de l'année scolaire. Et il y a un moment où, en fait, j'ai dû lui parler parce que Alice est hypersensible. Et j'ai dû lui en parler parce qu'il y avait un truc qui n'allait pas justement à l'école. Et elle m'a dit, quand la maîtresse m'a dit, oui, je sais, mais c'est certainement un truc d'Alice. Enfin, tu vois que c'était même pas un sujet. Et moi, j'avais tellement peur d'aller lui dire parce que je me suis dit, elle va pas me prendre au sérieux, elle va croire que je suis perchée, que tu sais, je suis trop sur mon enfant, trop à l'écoute, comme on peut entendre, tu vois, parfois, c'est vrai. Et en fait, d'avoir été écoutée et entendue tout de suite, enfin. Je sais que c'est un luxe, je sais que j'ai de la chance, je sais, et c'est triste en fait de dire que c'est une chance finalement d'être tombée dans cette école. Mais donc du coup, on est conforté dans nos choix et on peut aller plus loin dans nos choix professionnels grâce à ça. Ça ne veut pas dire que c'est figé dans le temps parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer plus tard, parce que voilà, on verra son épanouissement futur à l'école parce qu'on reste très vigilant quand même. Voilà.
Et socialement, Élise, le choix de l'enfant unique, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as l'impression que c'est quand même globalement accepté ? Est-ce que c'est quelque chose qui nourrit des remarques, des questions de ton entourage, des gens que vous croisez, que vous rencontrez ?
Alors, bizarrement, pas de notre entourage proche, mais de notre entourage qu'on connaît peu, oui, apparemment. C'est-à-dire que dans nos familles, notre choix n'a jamais été questionné. Si tu veux, nos parents n'ont jamais dit... mais vous êtes sûr ou quoi ? Bon, après, de mon côté, j'ai la chance d'avoir une sœur qui a décidé d'avoir plein d'enfants, donc ils sont un peu épanouis de ce côté-là, donc ils me laissent tranquille.
C'est bon, elle a fait le job.
C'est bon, je suis un peu tranquille. Non, mais ceci dit, parce que j'ai déjà parlé avec mes deux parents, parce que mes parents sont divorcés, donc avec mes deux parents de ce choix-là, et à chaque fois que j'en ai parlé, mon père, par exemple, avait toujours été... dit ouais, c'est génial, t'as raison, si c'est ce que tu veux faire, vas-y, c'est ok, c'est super. Et ma mère est également, en fait, finalement, alors que ça venait de moi, c'est moi qui en ai parlé, c'est moi qui ai abordé le sujet, c'est pas eux qui sont venus me dire qui m'ont dit alors quand est-ce que t'en fais un deuxième. Ils m'ont jamais posé la question. En revanche, je me souviens de voisins, mes anciens voisins, s'ils m'écoutent, je ne sais pas, mais de voisins qui nous disaient « Ah bah alors, à quand le petit frère, la petite sœur ?» Et nous, on n'a rien à cacher. Enfin, tu vois, on dit « Ah bah non, ça n'arrivera pas. » On dit « Oh bah pourquoi ?» Non, la question, ça a été « Mais vous n'allez pas lui faire ça quand même ?»
Ah ouais, carrément.
Parce que apparemment, notre fille aujourd'hui est extrêmement malheureuse et ouais. Elle doit avoir une vie pourrie parce qu'elle n'a pas de frère ou de sœur. Et en fait, c'est leur projection en fait. Mais moi, je le prends pas mal parce que je sais d'où ça vient. Moi, ce qui me gêne, c'est que ce soit dit devant elle.
Mais oui.
Ça me gêne. C'est le problème, c'est que, en fait, je nous revois, c'était à l'époque du premier confinement, quand on applaudissait, tu sais, à 20h, seul moment social où on parlait à peu près de marche à marche. Et c'était venu là, et c'est vrai qu'elle était là, du coup, Alice. Et moi, ça m'a gêné, en fait, qu'elle entende ça. Parce que peut-être que juste l'idée ne lui était, ça n'avait peut-être jamais germé dans sa tête qu'elle pouvait être malheureuse sans frère ou sœur en fait. Et là, quelqu'un d'extérieur va aller lui dire que ben ses parents sont d'horribles personnes parce qu'ils lui offrent pas un frère ou une sœur. Enfin, ça veut dire quoi, tu vois ? Et c'est plus par rapport à elle que moi ça me gêne. Par rapport à moi non, parce que je suis totalement en accord avec ce choix et que j'en parle très ouvertement, donc c'est même pas un sujet. Mais c'est vrai que quand elle est là, moi ça me gêne.
Non, mais je comprends totalement. Surtout qu'en plus, c'est vraiment quelque chose qui est dans des conceptions qui sont tellement loin de l'enfant, que surtout à cet âge-là, si tu veux, que ça peut être d'une violence inouïe, en effet, je conçois totalement. Et en même temps, j'ai envie de te dire, mais ça concerne qui, tu vois ? Je veux dire, que ce soit le choix de l'enfant unique, que ce soit le fait d'avoir deux enfants, que ce soit le fait d'en avoir 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12, ça fait beaucoup, 12.
Il y a la place dans le livret de famille. Hein.
Il y a la place dans le livret de famille. Non, mais en fait, quand je dis ça fait beaucoup, c'est pas un jugement, c'est qu'en fait, j'essaie de me projeter moi avec 12 et je me dis, waouh. Wow,
il faut plusieurs voitures. Hein.
12, quoi, c'est chaud. T'imagines, t'as une équipe de foot.
Et pourtant, il y en a qui font ce choix.
Et oui, non, mais bien sûr, il y en a qui le font, bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas de souci avec le fait de faire ce choix. Mais justement, c'est ça le truc, c'est il n'y a pas de souci avec les choix et ça serait peut-être bien qu'on laisse les gens faire comme ils ont envie, sachant que, en plus, ce qu'il y a de dingue, moi, ce que je retiens surtout de notre échange, c'est que aujourd'hui, vous faites un choix d'avoir un seul enfant. T'as vu, j'ai repris la formulation.
C'est bien.
Mais je n'ai pas dit que tu n'avais qu'un seul enfant. J'ai dit, vous faites le choix d'avoir un seul enfant. Et j'apprends.
C'est bien.
Et si tu veux, ce que je trouve chouette, c'est que c'est vous avancez avec vous, avec qui vous êtes, avec vos équilibres, avec vos joies, vos peines, vos doutes, vos réussites, tout ce qu'on veut. Et ça se trouve, dans 2-3 ans, il y aura un deuxième enfant, ou pas. Ou ça se trouve dans 4-5 ans, ou pas. Et tout ça, c'est OK.
C'est vrai.
Tu vois ?
C'est pas ce que tu dis.
Non, et ça mais va c'est nous vrai. Amener... Vas-y.
Non, mais en fait, ce que j'aime, moi, dans ce que tu dis, c'est le côté choix. Parce qu'en fait, je pense qu'avoir des enfants ou non devrait être un choix, en fait, tout comme... parce que dans l'inconscient, dans le collectif, en fait, il faut avoir des enfants. Parce que tu vois, nous, on a le choix d'avoir un enfant unique, mais on pourrait aussi avoir le choix de ne pas avoir d'enfants du tout. Et il faut forcément des enfants dans la représentation sociale de la famille, c'est un couple, des enfants. Et je dis bien, j'insiste sur le des enfants, hein, parce que dans la représentation, c'est un couple, des enfants.
2,6.
2.
2,6 ou 2,4, je crois.
En fait, tu peux en faire un troisième si tu en as eu deux du même sexe.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Tu sais, pour essayer de... Quand même, bah sinon, oui, tu vas être bah trop oui. malheureux.
Bah vois, oui, c'est sinon, pas ça terrible. Va pas.
Voilà, bah c'est oui, pour ça. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça le 2,6, c'est ceux qui tentent, tu vois. et en fait, on fait... Enfin, j'ai l'impression qu'on fait parfois des enfants par devoir ou parce que c'est ce qui doit être fait sans que le choix soit vraiment questionné. Et pour moi, c'est important justement de rappeler que ben un enfant... On fait le choix de faire un enfant, que ce soit un enfant, deux enfants, trois enfants. Il faut que ce soit un choix. Il faut que ce soit quelque chose qu'on décide ensemble et pas qu'on impose, pas qu'on fasse pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Il faut vraiment que ce soit un truc qu'on choisisse. Pour moi, c'est important de le rappeler ça. Et parce que c'est important pour moi, en fait, ouais, tout simplement.
Bah écoute, je te rejoins complètement que c'est important de rappeler la notion et l'importance du choix et du respect du choix de l'autre. Parce qu'on a souvent tendance à vouloir à ce qu'on respecte nos choix sans s'interroger sur le respect qu'on accorde au choix des autres. Et je pense que c'est sympa pour finir. Merci beaucoup, Élise.
Mais écoute, avec plaisir, Cédric.
À bientôt.
À bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.